Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Bagassi Courant, direct de Washington, mercredi 23 mai 2018. Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, le président Paul Kagame du Rwanda en visite en France. Son homologue français Emmanuel Macron soutient le chef de la diplomatie rwandaise pour diriger la francophonie.
Je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction.
Voilà, il s'agit bien de Louise Mushikiwabo. En RDC, selon Médecins sans frontières, 3 personnes porteuses du virus Ebola à Mbandaka se sont échappées de l'hôpital avant d'être retrouvées. Et puis les fonctionnaires tchadiens, eux, réclament l'intégralité de leurs salaires qui sont amputés depuis février. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un réclame une aide économique des États-Unis et des garanties de sécurité pour abandonner le nucléaire. Et puis ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Voilà, cette frayeur en RDC, 3 patients contaminés par le virus Ebola ont quitté, je dis bien quitté, contre l'avis de leur médecin, l'hôpital de Mbandaka. C'est ce qu'annonce un responsable de Médecins sans frontières sur place, les précisions de John Lindon.
3 patients ont quitté de leur propre gré la zone d'isolation de l'hôpital de Wankata dans la région de Mbandaka entre dimanche et mardi, a déclaré Henri Gray, coordinateur de l'intervention d'urgence de Médecins sans frontières sur Ebola à Mbandaka. 2 de ces 3 malades sont depuis décédés. Le premier patient, qui était sur le point d'être guéri, a quitté l'hôpital dimanche soir, tandis que les 2 autres ont quitté la structure avec leur famille dans la nuit de lundi à mardi, a-t-il expliqué. Les 2 derniers sont décédés, l'un à domicile et l'autre au centre d'isolement où il a été reconduit. Selon Médecins sans frontières, tous les efforts ont été faits par le staff sur place pour convaincre les patients ainsi que leurs familles de ne pas quitter le centre afin de poursuivre les soins. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, dans la province de l'Équateur. Officiellement, le nombre de morts s'élève à 27 sur 58 cas confirmés ou suspects.
John Lindon. Et Paul Kagame, lui, est à Paris. Le président rwandais effectue une visite de 2 jours en France. Il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée pour sa première visite depuis 2011. On fait le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le président rwandais est à Paris pour participer au salon Vivatech. Le Rwanda nourrit l'ambition de devenir l'un des centres numériques de l'Afrique. Paul Kagame a participé à l'Élysée à un déjeuner avec des patrons du numérique comme Mark Zuckerberg du réseau social Facebook et Satya Nadella de Microsoft. Les 2 présidents vont visiter ensemble le salon Vivatech. Après s'être entretenu avec son homologue rwandais, Emmanuel Macron a annoncé qu'il va se rendre début juillet au sommet de l'Union africaine à Nouakchott, dont Paul Kagame est le président en exercice. Le chef de l'État français a par ailleurs dit assumer la complexité des relations entre Paris et Kigali, tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda.
Par ailleurs, le président Emmanuel Macron apporte son soutien à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, pour diriger la francophonie.
Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Elle a une maîtrise parfaite de la langue française. Dans un pays dont le président s'exprime en anglais, mais dont autour de la moitié de la population, si ce n'est un peu plus, parle encore français, contrairement à ce que j'entends parfois dire, qui est membre à plein de la francophonie, et où justement le lien du français avec une autre langue et d'autres langues, parce qu'il y en a plusieurs, s'exerce à plein.
Voilà, c'était le président français Emmanuel Macron. Et pour rester en France, la justice a demandé la mise en examen pour homicide volontaire de 2 mineurs de 16 et 17 ans interpellés dans l'enquête sur le meurtre à Pau d'un homme d'origine burkinabé à l'issue d'une risque au motif encore flou. Selon la procureure française, l'un d'entre eux a reconnu avoir participé à la bagarre mais ne pas avoir laissé la victime décédée. L'autre dit qu'il était présent mais qu'il n'a pas porté de coups. Au Burkina Faso, la procureure est revenue sur l'opération militaire qui s'est tenue dans la nuit de lundi à mardi à Ouagadougou, la capitale. Au cours d'un point de presse, Maïsa Sérémé a fait savoir que les présumés terroristes retranchés dans une maison du quartier Rayongo projetaient une attaque dans la capitale le mois prochain contre des cibles importantes. Un véritable arsenal de guerre a été découvert. Fusils AK-47, soit des Kalachnikov, donc un mitrailleur, des clous, des détonateurs, des grenades, des tenues militaires de l'armée burkinabé et de l'armée française et du matériel de communication. Ils étaient de nationalité burkinabé et malienne et appartiendraient au groupe terroriste Al-Mourabitoun. Au Tchad, les fonctionnaires ont demandé le paiement intégral de leur salaire lors d'une assemblée générale à N'Djamena. Depuis janvier, les primes et les indemnités ont diminué. Marie Benson.
Lors d'une assemblée générale mercredi, l'Union des syndicats du Tchad a demandé le paiement intégral des salaires. En janvier, le gouvernement a coupé de 50% les primes et indemnités des fonctionnaires. Chaque employé de la fonction publique a perdu environ 100 000 francs CFA par mois, soit un tiers de ses revenus depuis 2016. Le Tchad compte environ 92 000 employés dans la fonction publique. Pour des raisons budgétaires, le président Idriss Déby souhaite attendre jusqu'à la fin de l'année pour régulariser les salaires. Pendant 2 mois, les fonctionnaires ont protesté dans les rues malgré l'interdiction des manifestations. N'Djamena doit réduire la masse salariale à la charge de l'État. Le Fonds monétaire international a accordé au Tchad 2 tranches de financement de 99,8 millions de dollars.
Dans le nord-est du Nigeria, 12 personnes sont mortes du choléra en 4 jours dans l'état d'Adamawa, indiquent les autorités. Cette nouvelle épidémie qui a débuté dimanche a contaminé 142 habitants dans le district de Moubi. Toujours au Nigeria, un ingénieur syrien enlevé la semaine dernière par des hommes armés dans l'état de Sokoto, dans le nord du pays, a été libéré par ses ravisseurs. D'après la police locale, Abdul Nasir a été kidnappé le 16 mai alors qu'il se rendait sur un chantier de construction près de la ville de Sokoto, tandis que les 3 policiers qui l'escortaient ont été tués. Aucune rançon n'a été payée, affirment les autorités. Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe a ignoré une convocation du Parlement qui comptait l'entendre sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. L'audition a été reportée à lundi. Madagascar, le parti au pouvoir, organise un rassemblement dans le plus grand stade du pays samedi prochain. Mesure prise alors que l'opposition tient des manifestations quotidiennes contre le régime. En Égypte, le blogueur et journaliste Wael Abbas a été arrêté la nuit passée au Caire. Annoncé à l'AFP, son avocat, il est connu pour ses positions contre la violence policière, la torture ou encore la corruption.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, parlons maintenant de ces relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, affirme que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un attend en contrepartie une aide économique et des garanties de sécurité pour abandonner son nucléaire. Le point avec Eki Abadou.
Devant une commission de la Chambre des représentants, le secrétaire d'État américain a assuré que le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un est toujours prévu pour le 12 juin. Alors que le président américain a évoqué hier un éventuel report, M. Pompeo se dit toujours optimiste après avoir déjà rencontré à 2 reprises le dirigeant nord-coréen à Pyongyang. Devant les parlementaires, il a affiché la fermeté, disant que la position américaine ne changera pas tant qu'il n'aura pas vu des pas crédibles vers la dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. Selon lui, le dirigeant nord-coréen a clairement exigé en contrepartie une aide économique de l'Amérique, notamment de son secteur privé, et une aide internationale. Il a également dit que Kim Jong-un veut des garanties de sécurité et éventuellement aboutir à un traité de paix pour mettre fin à la guerre de Corée de 1950 à 53, qui s'est achevée avec l'armistice.
La Russie appelle la communauté internationale à s'impliquer dans la reconstruction de la Syrie. Moscou estime que les succès militaires du régime permettraient de rétablir le pays en guerre en un État unifié et indivisible. Nous espérons que l'ONU et les autres organisations internationales ne se contenteront pas que de mots, mais prouveront par leurs actes leur implication dans la reconstruction rapide du territoire syrien, souligne l'armée russe. La Palestine rejoint deux nouvelles agences de l'ONU. Le coordonnateur des Nations Unies pour le Proche-Orient, Nikolai Mladenov, a dit mercredi au Conseil de sécurité que la Palestine a adhéré à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et puis ici aux États-Unis, un homme a été gravement blessé par balle après avoir caché son arme à feu dans le four de sa cuisine. D'après un média local, la compagne a allumé le four en ignorant la présence de l'engin. Sous l'effet de la chaleur, l'arme a détonné une première fois. Il s'est alors précipité pour récupérer l'arme brûlante dont les munitions ont explosé. Il avait dissimulé son revolver car il attendait la visite d'enfants. Un acte à ne pas répéter. Voilà, c'est donc l'essentiel de ce qu'on peut dire en termes d'information. Dans quelques instants, nous passons à la Minute Éco. Et la Minute Éco, ce soir, c'est sur VOA Afrique. Voilà, comme je le disais, l'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Les bailleurs de fonds internationaux promettent 1,7 milliard de dollars d'aide à la Gambie. Ce financement vise à poursuivre sa transition démocratique, créer des opportunités en faveur du peuple gambien et renforcer davantage la démocratie. Les recettes du secteur touristique en Égypte ont dépassé plus de 2 milliards de dollars au premier trimestre 2018. Il s'agit d'une hausse spectaculaire de plus de 83% par rapport à la même période de 2017. Le nombre de touristes a bondi de plus de 37%, soit près de 2 millions et 400 000 touristes. Le tourisme représente 12% du produit intérieur brut égyptien. En 2010, les recettes se sont élevées à plus de 11 milliards de dollars. Les géants mondiaux du numérique ont annoncé des mesures de protection sociale, d'éducation ou d'investissement sur fonds de contentieux fiscaux. Uber va offrir gratuitement à ses 150 000 chauffeurs et coursiers dans 21 pays d'Europe une assurance sociale pour couvrir les maladies, les accidents du travail et hors travail. Deliveroo va offrir à ses coursiers dans le monde une assurance accident et responsabilité. Accenture va investir 200 millions de dollars sur 5 ans pour des formations destinées aux personnes éloignées de l'emploi. La fondation de Google va donner 100 millions de dollars sur 5 ans pour des projets à but non lucratif de formation aux métiers du numérique, notamment en Afrique.
Voilà, c'est l'heure de sport et on accueille Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Soupçon de corruption à la Fédération ghanéenne de football.
La police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de corruption à Accra à l'encontre du président de la Fédération de football, faisant suite à une demande spéciale du président ghanéen. Cette affaire résulte d'une enquête menée par un journaliste infiltré au sein de la Fédération qui n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire.
Et puis début de la préparation de la Coupe du Monde pour le Sénégal.
Oui, la sélection sénégalaise est réunie pour une courte mise au vert près de Dakar. C'est la seule occasion de communier avec les supporters sénégalais avant le mondial en Russie. Pour des raisons notamment financières, la fédération n'a pas organisé de match de préparation au Sénégal avant la première Coupe du Monde des Lions de la Teranga depuis le fameux quart de finale de 2002 au Japon et en Corée du Sud. Le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé sa liste des 23 joueurs. Il a donc donné rendez-vous à ses troupes dans la station balnéaire de Sali pour le premier entraînement hier dans la tanière. Seuls 7 lions étaient présents. Les autres devaient arriver dans la semaine, sauf évidemment Sadio Mané qui, vous le savez, prépare la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid.
Emery rebondit à Arsenal.
Unai Emery, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, a été nommé manager d'Arsenal. Annonce du club londonien après évidemment 22 saisons sous la houlette d'Arsène Wenger. Le technicien espagnol de 46 ans a remporté 3 Europa League consécutives avec Séville avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour les 2 dernières saisons. Il a évidemment eu beaucoup de titres, mais il a surtout été éliminé en Ligue des Champions avec la fameuse remontada, la défaite 6-1 à Barcelone.
Et en basketball, les playoffs de la NBA qui se poursuivent dans le championnat nord-américain de basketball.
Houston a stoppé l'incroyable série de 16 victoires consécutives à domicile en playoffs de Golden State. Large victoire à l'arraché, 95 à 92. Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale à Boston ou Cleveland. Eux aussi, dos à dos, deux victoires partout dans la finale de la Conférence Est.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, de retour avec vous, Bagassi Koura. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et c'est sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. Voilà, ça c'est passé en RDC. Trois patients infectés par le virus d'Ebola ont quitté un service d'isolement dans un hôpital à Mbandaka. Des sources sanitaires ont déclaré que les patients ont quitté l'hôpital avec l'aide des membres de leur famille pour se rendre dans un lieu de prière. Une situation qui rend encore plus difficile les conditions de travail de ceux qui luttent contre l'épidémie, confrontés à des croyances ancestrales. Yacouba Ouedraogo a joint Julien Reichmann, le chef de mission de Médecins sans frontières en RDC.
Il y a des personnes effectivement qui difficilement acceptent l'hospitalisation malgré nos efforts pour expliquer la situation. Et effectivement, il y a des patients qui sont partis, mais on est parvenu à recontacter des familles, à les convaincre et à récupérer les personnes ou malheureusement les corps. Ils étaient déjà dans un stade avancé de la maladie, mais sont restés en dehors peu de temps. Cet épisode malheureux nous permet aussi, avec le ministère de la Santé, d'adapter une approche qui prenne en compte beaucoup plus les croyances locales.
Ces trois personnes ont été retrouvées mortes.
Il y a une personne qui a été récupérée, qui était toujours vivante. Les deux autres ont été enterrées de façon encadrée.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, des considérations sociologiques et on va dire même ancestrales, quand même rendent assez compliqué votre mission de contenir la maladie. Comment se passe tout cela avec la campagne de vaccination qui a été lancée justement par rapport au virus?
Aujourd'hui, la campagne de vaccination sur le terrain concerne le ministère de la Santé et l'OMS. MSF, pour le moment, n'a pas encore lancé sa propre campagne de vaccination qui commencera un petit peu plus tard. À ce stade, je ne peux pas vous faire de commentaires.
Comment les populations vivent cette épidémie avec les croyances ancestrales qui, quand même, ne rendent pas la tâche assez facile à ceux qui veulent lutter contre la maladie?
Pour pouvoir adapter notre discours, expliquer le mieux possible aux gens que au plus ils vont chercher de l'aide médicale rapidement lorsqu'ils développent des symptômes, au plus leurs chances de guérison seront élevées, et aussi qu'ils ont une responsabilité par rapport au reste de la communauté, quand ils sont malades ou quand ils ont un proche qui est malade, de devoir trouver de l'aide dans une structure de santé pour pouvoir l'isoler et de ne pas infecter d'autres personnes.
L'OMS évoque 27 personnes tuées.
Donc les 27 personnes, on parle de symptômes de fièvre hémorragique virale. Donc sur les 27, tous n'ont pas été confirmés comme étant victimes d'Ebola. Aussi, il faut quand même considérer qu'il y a d'autres maladies qui provoquent des symptômes proches et que c'est aussi une des difficultés pour nous, c'est de faire comprendre aux gens que quand ils ont des symptômes qui ressemblent à ceux de la fièvre hémorragique virale, même s'ils espèrent ne pas l'avoir, même s'ils espèrent que c'est autre chose, ils doivent venir chercher de l'aide parce que ça peut l'être. Quand on parle des 27 personnes qui sont décédées, c'est des cas de symptômes de fièvre hémorragique, mais pas d'Ebola confirmé.
Comment vous travaillez justement dans la mesure où le ministère congolais de la Santé parle d'un seul cas confirmé?
On travaille avec le ministère et ce sont les chiffres du ministère.
Voilà, c'était donc Julien Reichmann, chef de mission de MSF en RDC.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la réapparition de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une campagne de vaccination a démarré lundi. Quelle est l'ampleur de cette 9e épidémie en RDC? Les pays voisins courent-ils un risque de propagation? Que sait-on du vaccin expérimental utilisé pour contrer la maladie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h.
Depuis le 7 mai, le Congo-Brazzaville vit au rythme des procès à caractère politique et militaire. Nombreux estiment que le pouvoir veut régler des comptes à des opposants et à ceux qui, partisans du régime, développent des ambitions politiques. Mais pour le PCT, le parti au pouvoir, il faut avoir confiance en la justice. De Brazzaville, la correspondance de Arsène Séverin.
Ces procès donnent lieu à de diverses interprétations auprès des populations qui restent éveillées à suivre jusqu'à tard dans la nuit la diffusion des audiences sur la télévision nationale. Chacun se fait sa propre opinion et l'opposition estime que tous ces procès sont cousus de fil blanc. Éric Patrick Mampouya, membre de la Fédération de l'opposition congolaise, dit comprendre les velléités des généraux à vouloir renverser les institutions.
Parce que à côté, il y a un monsieur surarmé, le pouvoir actuel, qui ne fait rien face aux difficultés des Congolais. On ne peut pas le changer. Ils sont là, arc-boutés, à la prochaine élection, si encore eux. Ça fait 50 ans, ça dure. Alors, quelle est l'alternative? Je ne justifie pas la violence. Attention, mais à un certain moment, je peux la comprendre. Je comprends les généraux qui cherchent à gauche, à droite. Je ne dis pas qu'ils ont cherché parce que les preuves, pour moi, n'existent pas.
En réaction à la condamnation du général Mokoko à 20 ans de prison ferme, la présidente de la Fédération de l'opposition, Claudine Munari, a écrit au procureur de la République, lui demandant de l'incriminer et de lui faire faire un procès, car elle aussi aurait des intentions assimilables à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, crime pour lequel le général Mokoko a lourdement été châtié. Mais au niveau du Parti congolais du travail, PCT, le principal parti au pouvoir, les dirigeants appellent à la sérénité et à faire confiance à la justice. Serge Michel Ozuki est le porte-parole du PCT.
Le parti respectueux de l'indépendance du pouvoir judiciaire ne se mêle pas du tout de ce qui se fait au niveau de la justice. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. C'est la liberté de chacun. L'état de droit, c'est cela.
Analysons les faits avec le recul. Le professeur Raymond Timothée Makita épingle une crise de palais qui pourrait faire mal au régime.
En général, les procès qui ont eu lieu dans notre pays concernant des affaires politiques consistaient toujours dans la réaction du pouvoir vis-à-vis d'une opposition. Mais cette fois-ci, vous avez dû constater que la contestation est à l'intérieur même du système. Parce que quand on parle de général Mokoko, de monsieur Okombi, Salissa, de Dabiras, c'est quand même des officiers qui sont très proches du président Sassou et qui l'ont même ramené au pouvoir en 97.
Demain mercredi s'ouvre un autre procès, celui de l'ancien ministre de la Justice Jean-Martin Bemba, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et dont le co-accusé, le colonel Jean-Claude Mbango, est en détention préventive depuis 2013. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président rwandais Paul Kagame a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée pour sa première visite depuis 2011. Macron a annoncé qu'il va participer au prochain sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Il a aussi apporté son soutien à Madame Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui veut diriger l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Comment expliquer ces nouveaux signes de détente entre la France et le Rwanda? Eh bien, Idriss Fall a rejoint à Paris Jean-François Dupaquier, il est journaliste et écrivain.
Il y a plusieurs choses qui ont concouru à cette ébauche de réconciliation. D'une part, l'élection en France d'un président de la République qui n'a pas de contentieux avec le Rwanda, comme pouvant en avoir François Hollande, qui était déjà à l'Élysée en 1994 et qui recevait les telex des services secrets, qui était dans la ligne de la politique de François Mitterrand, alors qu'Emmanuel Macron était tout jeune au moment du génocide. Il est en quelque sorte complètement neuf sur ce dossier, sans doute prêt à trouver des solutions pragmatiques.
Et peu avant l'arrivée de Kagame, il y a un haut responsable militaire qui a dit qu'il faut déclassifier.
Exactement. Il s'agit de l'amiral Jacques Langsad, qui était le chef d'état-major particulier de François Mitterrand au début de la guerre civile au Rwanda en 1990 et qui est devenu par la suite chef d'état-major général des armées françaises. Il vient de déclarer qu'il était favorable à la déclassification des documents militaires car, dit-il, l'armée française n'a rien à se reprocher. Cette question de la déclassification est cruciale dans les rapports entre la France et le Rwanda car visiblement il y a des oppositions très fortes, notamment de la part d'Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Comme ces oppositions doivent avoir une raison, on suppose qu'il existe parmi les documents qui sont toujours classifiés des éléments, disons, inavouables selon l'expression de Patrick de Saint-Exupéry. La démarche de l'amiral Langsad va dans le bon sens. Peut-être que ce ne sont pas des documents militaires qui posent problème, mais en tout cas au moins qu'on déclassifie l'ensemble de ces documents, ça permettra d'avancer.
Vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir des relations France-Rwanda?
Oui, il y a toutes les raisons d'être optimiste. D'abord, la fin de l'interminable enquête Bruyère commencée en 1998, donc ça fait 20 ans. Les juges d'instruction ont décidé de clôturer le dossier, donc il appartient aujourd'hui au parquet. Il y a de fortes probabilités que le parquet demande un non-lieu, car tous les éléments à charge contre les officiels rwandais de l'entourage de Paul Kagame dans l'attentat du 6 avril 1994 se sont effondrés les uns après les autres, chaque fois que les témoins sont apparus peu crédibles, voire totalement manipulateurs.
Qu'en est-il des génocidaires présumés qui habitent et vivent en France?
C'est un des derniers problèmes difficiles à régler. À l'heure actuelle, il y a environ 24 ou 25 suspects de génocide identifiés très clairement pour un rôle important pendant le génocide qui se trouve en France, et la justice est extrêmement lente. On voit bien qu'on arrive à juger en moyenne un ou deux génocidaires tous les deux ans. À ce rythme-là, on ne parviendra jamais au bout des enquêtes qui sont déjà commencées. C'est une source de frustration très importante pour les rescapés du génocide et pour les autorités rwandaises qui, elles, ont, par l'intermédiaire des Gacaca, jugé plus d'un million de personnes.
C'était Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, rien n'a filtré de la convocation mardi au ministère des Affaires étrangères de l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Barlerin, suite à sa déclaration donc accusant les forces de sécurité et les séparatistes anglophones de nombreuses exactions. L'ambassadeur Barlerin avait appelé au dialogue pour résoudre la crise dans ces régions anglophones. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Yaoundé Jean-François Chanon du quotidien Le Messager.
L'ambassadeur a dit qu'ils étaient très préoccupés par la situation, notamment dans les zones anglophones. Et à ce titre-là, ils demandaient que le pouvoir de Yaoundé puisse mettre tout en œuvre pour essayer de régler cette situation, de voir comment faire pour la solution de l'affrontement entre les sécessionnistes et le régime de Yaoundé et les forces de défense et de sécurité devraient pouvoir ne pas continuer éternellement compte tenu du fait qu'il y a des souffrances des populations. Je vais d'ailleurs vous lire très rapidement un extrait de ce que l'ambassadeur dit à ce propos. Au sujet de la situation dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, le mois d'avril s'est avéré le plus sanglant pour que les choses ne s'améliorent pas. J'ai discuté avec le président de notre point de vue selon lequel les deux parties en conflit ne s'écoutent tout simplement pas. Ça signifie clairement que l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, Henry Barlerin, Peter, a souhaité qu'il y ait un dialogue entre les autorités de Yaoundé et peut-être les sécessionnistes pour qu'on puisse trouver une solution.
Qu'est-ce qui, dans cette déclaration, a provoqué l'ire de Yaoundé?
Bon, ce n'est pas le fait vraiment de la crise anglophone de notre point de vue, mais c'est plutôt l'allusion qui a été faite par l'ambassadeur Peter Henry Barlerin, notamment sur la possibilité pour le président Biya d'entrer dans l'histoire. Et je voudrais une fois de plus, avec votre permission, citer ce passage de l'ambassadeur Peter Henry Barlerin. J'ai suggéré, et j'ouvre les guillemets, j'ai suggéré au président qu'il devrait penser à son héritage et à la façon dont il veut se souvenir dans les livres d'histoire pour être lu par les générations à venir, et a proposé que George Washington et Nelson Mandela soient d'excellents modèles. C'est cette allusion-là, parce que l'interprétation qui a été faite, c'est que l'ambassadeur aurait dit au président Paul Biya que le président Donald Trump souhaite que le président Biya quitte le pouvoir. De manière officielle, les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi.
Voilà, c'était notre confrère Jean-François Chanon. Il est rédacteur en chef délégué au quotidien Le Messager à Yaoundé. C'est tout pour cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, à la présentation Bagassi Koura. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com.